VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Mercredi 26 avril, il est 17h30 en temps universel. Tout de suite, les titres. La Guinée-Bissau toujours en crise alors que la CEDEAO annonce le retrait de ses troupes du pays. Liberté provisoire pour des proches du maire de Dakar, Khalifa Sall. En République démocratique du Congo, des affrontements au Kasaï ont fait 20 victimes. Et ici aux États-Unis, un juge a décidé de suspendre un décret présidentiel. Et puis nous avons rendez-vous avec le sport et la Minute Éco. La CEDEAO annonce donc le retrait de ses troupes de Guinée-Bissau à partir de ce vendredi, alors que le pays est toujours plongé dans une crise politique qui dure depuis bientôt 2 ans à cause d'une rivalité au sein de la coalition du parti au pouvoir, Abdourahmane Dia.
Les 600 éléments de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest étaient présents en Guinée-Bissau depuis 2012 après un coup d'État militaire. Ils avaient pour mission essentielle la protection des personnalités et des édifices publics. Le pays traverse une nouvelle crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira. Ce dernier est le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert au pouvoir. Les deux hommes appartiennent à la même formation politique qui dirige le pays depuis son indépendance en 1976. Depuis, l'exécutif et le législatif se livrent à une bataille de légitimité, bloquant le fonctionnement de l'État. La décision de la CEDEAO d'entamer le retrait de ses hommes suscite déjà des inquiétudes à Bissau, où la crise politique persiste en dépit de multiples médiations sous la houlette de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui avait déjà fait état de son exaspération. La communauté des États lusophones a aussi envoyé plusieurs missions sans succès. Le pays a connu plusieurs coups d'État et l'armée est réputée pour son implication dans le géopolitique national. L'inquiétude est d'autant plus grande que la Guinée-Bissau doit organiser des élections législatives dans 1 an.
Au Sénégal, plusieurs proches de Khalifa Ababakar Sall, le maire de Dakar, ont obtenu une liberté provisoire. Parmi eux, le maire de la Médina, le neveu et le directeur de cabinet de Monsieur Sall, ainsi que le secrétaire général des jeunesses socialistes de Dakar. Khalifa Sall reste quant à lui en prison. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur près de 2 milliards de francs CFA.
On m'avait kidnappé, je suis libre, mais le combat continue. Tels sont les premiers mots de Bamba Fall, maire de la Médina et proche collaborateur de l'édile de la ville de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Inculpé pour tentative d'assassinat, violence et voie de fait, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort, Bamba Fall et une dizaine de proches du maire de Dakar ont été emprisonnés à la suite de l'enquête sur le saccage du siège du Parti socialiste sénégalais. En prison depuis janvier, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire décidée le 28 mars 2017 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Malgré le contrôle judiciaire dont ils font l'objet, ses proches collaborateurs de l'édile de la ville de Dakar promettent une rude bataille au président de la République. Pour eux, aucune élection ne peut se tenir au Sénégal sans la libération de leur leader Khalifa Ababakar Sall. Hier, un grand rassemblement de soutien s'est tenu en faveur du maire de la capitale sénégalaise dont l'emprisonnement est jugé arbitraire par beaucoup d'opposants sénégalais. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'ONU indique que 20 personnes ont été tuées lors d'affrontements dans la province du Kasaï, au centre du pays. Des violences qui ont eu lieu le 19 avril dans la localité de Mungamba, située à 30 km à l'est de Tchikapa, la capitale du Kasaï occidental, selon un communiqué de la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO. Selon le texte, ce sont les affrontements entre communautés Lulua Luba et Chokwepende qui ont causé ces morts. L'épidémie de méningite qui sévit dans le nord du Nigeria a fait plus de 800 morts en 5 mois, selon le ministre nigérian de la Santé. Des tests en laboratoire ont confirmé que cette méningite est d'un nouveau type, souche C. C'est la première fois qu'elle se déclare en épidémie dans le pays. Le gouvernement nigérian a indiqué être, avec une entreprise pharmaceutique locale, en phase de recherche pour produire des vaccins. Selon un communiqué de Médecins sans frontières paru ce jour, la mauvaise qualité de l'eau et une mauvaise hygiène sont à l'origine de l'épidémie d'hépatite E qui a déjà fait 25 morts dans des camps de réfugiés à Difa, dans le sud-est du Niger. La région de Difa, frontalière du Nigeria, subit depuis 2015 des attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Elle abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés. Le Nigeria, dont le président Muhammadu Buhari était absent du Conseil des ministres aujourd'hui pour la deuxième fois en quelques semaines. Il devait se reposer, a annoncé la présidence, alimentant des inquiétudes sur la santé du chef de l'État. Le président de 74 ans est rentré début mars d'un séjour de 8 semaines à Londres où il a suivi des traitements médicaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un juge fédéral a décidé de suspendre en grande partie l'application d'un décret présidentiel visant à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à la politique migratoire de Donald Trump. Félix Yepassizambrou nous en dit plus.
Le président Trump n'a pas caché sa colère à l'annonce de la décision, assurant vouloir porter l'affaire devant la Cour suprême. Car pour Trump, il s'agit d'une décision ridicule. De quoi s'agit-il ? Le président Donald Trump avait signé un décret devant permettre de retirer des subventions fédérales aux villes et notamment aux forces de l'ordre locales qui refusent de coopérer avec la police fédérale de l'immigration. Le comté de Santa Clara et la ville de San Francisco, en Californie, ont assigné en justice le gouvernement de Donald Trump, espérant obtenir une suspension du dit décret. Mardi donc, le juge William Orrick de la Cour fédérale de San Francisco leur a donné raison. Reste que le débat sur le fond aura lieu ultérieurement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les autorités américaines ont accentué la répression de l'immigration illégale.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé hier mardi une rencontre avec le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel. Le ministre fédéral des Affaires étrangères allemand avait tenu à rencontrer des représentants de deux ONG israéliennes très critiques envers le gouvernement Netanyahou. La chancelière allemande Angela Merkel a déploré que la rencontre n'ait pas eu lieu. C'est ce qu'a rapporté son porte-parole. En France, le Conseil d'État a condamné l'État à verser 15 000 euros aux parents d'une adolescente de 17 ans qui, en novembre 2013, avait pu quitter la France alors qu'elle était inscrite sur le fichier des personnes recherchées en réparation du préjudice moral subi. Pour la plus haute juridiction du pays, saisie par les parents de la jeune fille, les services de police ont fait preuve de négligence et les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières de l'aéroport auraient dû s'opposer à son embarquement. Les raids aériens turcs contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie ont fait 28 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de la Turquie depuis son entrée dans la guerre en Syrie en août 2016. Damas a condamné aujourd'hui l'agression de son ancien allié qu'elle qualifie de flagrante dans un communiqué. Les autorités saoudiennes ont annoncé aujourd'hui avoir déjoué une tentative d'attaque par un bateau piégé provenant d'une zone contrôlée par les rebelles houthis du Yémen contre une installation pétrolière du sud de l'Arabie. C'est la première attaque de ce type. Depuis mars 2015, l'Arabie saoudite conduit au Yémen une coalition arabe qui soutient sur le terrain les forces du président Abd Rabo Mansour Hadi contre les houthis fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh et accusé de liens avec l'Iran. Des forces pro-gouvernementales irakiennes, le Ashad Abi, ce qui veut dire mobilisation populaire, ont annoncé aujourd'hui avoir repris au groupe État islamique la cité antique de Hatra, située dans une région désertique, au sud-ouest de Mossoul. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est votre rendez-vous maintenant avec l'actualité économique en Afrique. C'est la Minute Éco, présentée ce soir par Bagassi Koura.
L'activité touristique en Afrique va enregistrer près de 110 millions d'arrivées cette année, soit près du double du taux enregistré en 2016. Ces prévisions ont été publiées dans un rapport, le tout premier Hospitality Report Africa, d'une plateforme de voyage et de réservation d'hôtels. Le tourisme emploie indirectement une personne sur 20 en Afrique et a contribué en 2016 au PIB à hauteur de 7,8%. En Afrique du Sud, la justice déclare inconstitutionnel et illégaux des accords de coopération signés avec la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud en vue de la relance du programme nucléaire civil, cible de nombreuses critiques dans le le pays. En suspendant ces accords, le tribunal de la ville du Cap a donné raison à plusieurs ONG qui dénonçaient l'opacité du processus. Et puis le ministre burkinabé de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a lancé hier à Bissiga, localité située à l'est de Ouagadougou, un projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et sols. Ce projet de 2 ans va coûter 3,2 millions d'euros. Il vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et du taux de couverture des besoins céréaliers. La croissance du produit intérieur brut du Ghana en 2016 s'est établie à un chiffre provisoire de 3,5% en glissement annuel, en baisse par rapport à 3,9% en 2015.
Place au sport maintenant avec vous, Eric Maniarakiza. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
Alors, on commence par du football. Affiche intéressante en Coupe d'Allemagne, sanctionnant la dernière demi-finale.
Le coup d'envoi, Anastasie, c'est à 20h45, heure locale. Un des deux poids lourds du football allemand va sans doute revivre un goût amer provoqué par l'élimination en Ligue des Champions. Ce Bayern Munich, Borussia Dortmund mobilise les amateurs du ballon rond. Comme vous, Anastasie, le vainqueur jouera la finale le 27 mai à Berlin contre l'Eintracht Frankfurt qui s'est imposé hier face à Mönchengladbach dans la première demi-finale à l'issue des tirs au but. Et on apprend à parler allemand.
Une magnifique prononciation. Derby de Manchester, on va en Angleterre maintenant.
L'enjeu de taille, l'équipe victorieuse aurait l'avantage dans la course à la Champions League pour le reste du printemps. José Mourinho et Manchester United ont l'occasion d'infliger un revers catastrophique dans cette lutte aux voisins Oni, Pep Guardiola et Manchester City à 19h, temps universel. Et pour donner un avant-goût au match, Anastasie, on ne manque pas d'imagination. Mourinho, pied au plancher, Guardiola, pied sur le frein, votre expression préférée.
Oui, voilà, je cherche encore le sens. Et Joey Barton est suspendu 18 mois pour Paris Sportif.
L'ancien milieu de terrain de Marseille et des Glasgow Rangers a violé le règlement de la FIFA qui interdit les paris pour les joueurs. C'est une suspension avec effet immédiat de toute activité liée au football. Joe Barton a reconnu avoir parié près de 1260 fois sur des rencontres de football pendant plus de 10 ans entre 2006 et 2016. Et je sais que vous n'aimez pas les paris.
Pas vraiment, non, pas du tout même. Allez, en Espagne, Varane est de retour dans le groupe du Real Madrid.
Le défenseur français figure dans le groupe qui va affronter la Corogne mercredi à 19h30 temps universel. Raphaël Varane est rétabli d'une blessure à une cuisse en attaque. Zidane a visiblement choisi de laisser Ronaldo à Madrid en prévision des prochaines échéances et notamment la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. C'est le 2 et le 10 mai.
On sera là. Aux Pays-Bas, le stade d'Amsterdam, rebaptisé au nom de Johan Cruyff.
C'est pour rendre un hommage de grande valeur au meilleur joueur qu'Amsterdam et les Pays-Bas aient jamais connu, Anastasie. L'appellation officielle de l'enceinte deviendra Johan Cruyff Arena. L'ex-icône du club a notamment remporté 3 fois la Champions League de 1971 à 73 avec l'Ajax avant de rejoindre Barcelone. Et Cruyff a offert en 1992 aux Blaugranas la première Champions League de leur histoire. Le triple ballon d'or orange, décédé le 24 mars 2016 à l'âge de 68 ans. Et le Barça a également prévu la construction d'une statue à son effigie devant le Camp Nou, le stade catalan. Il a entraîné cette équipe pendant plusieurs années.
Allez, basketball à présent. Quels sont les résultats, Eric, des matchs du premier tour des playoffs disputés hier? Match de la NBA, évidemment.
L'Oklahoma City Thunder et sa star Russell Westbrook ont quitté le navire, battu 4-1 par les Houston Rockets. Utah Jazz a fait un pas vers la qualification en allant s'imposer à Los Angeles Clippers 3-2. Le vainqueur de la série défiera les Golden State Warriors, déjà qualifiés après avoir balayé les Portland 4-0 plus tôt dans la semaine. Et les Spurs de San Antonio, l'équipe préférée de Gabby Dorsil, ont repris le contrôle de leur série. Maintenant 3-2 en battant les Grizzlies de Memphis. C'est toi, Anastasie.
Passion Sport, c'était Eric Maniarakiza. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Place à nos dossiers du jour et on commence au Niger, où la procureure de la Cour pénale internationale était invitée par le président du Parlement. Fatou Bensouda a discuté avec les parlementaires nigériens de son travail. Reportage de notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
C'est une grande première. Depuis 2011 qu'elle est procureure de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda devant un parlement pour expliquer le travail de la Cour et ses procédures. La CPI n'a pas en effet bonne presse en Afrique, et ce pour diverses raisons.
De nombreuses idées sont confondues au sujet de la CPI et de la manière dont elle fonctionne. Mais je crois que si nous prenons le temps de comprendre la compétence de la juridiction, et il est possible de le faire en consultant notre site web. C'est aussi possible à travers ce genre de discussion que j'ai eu le plaisir d'avoir avec des membres du Parlement du Niger. C'est notre responsabilité de nous informer, car 34 pays d'Afrique font partie de la CPI.
Pendant plusieurs heures, elle a tenté de rassurer les parlementaires nigériens sur l'indépendance et l'impartialité du travail que mène son bureau. Malgré tout, certains sont ressortis avec les mêmes idées.
Il est clair aujourd'hui que la Cour est plus ou moins douteuse. Sur les 10 détenus, il y a 9 qui sont africains. L'assassinat de Kadhafi, la pendaison de Saddam Hussein, tout ça là, ce n'est pas des Africains. Alors si aujourd'hui cette Cour n'a pas cette possibilité d'extendre sa puissance, même dans les pays aussi occidentaux, je pense que notre présence aussi dans cette Cour n'a pas sa raison d'être.
Sur la question du retrait collectif des États africains de la Cour, l'ancienne ministre gambienne de la Justice pense que la réflexion doit être mûrie davantage.
You have to remember that this court came into existence largely because of the efforts of African states in the negotiations of setting up this ICC. Africa has played a big role, and we cannot downplay that. Africa continues to support the ICC. In all the cases that we are handling in Africa, we are asking for cooperation, we are asking for support, we are always engaging with individual African states, and we are getting that support.
La procureure de la Cour pénale internationale s'est dit ravie de cette initiative du Parlement nigérien, une expérience qu'elle espère pouvoir renouveler dans de nombreux autres pays.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Tracasseries, vols, harcèlement sexuel, pourrissement des marchandises sont le lot quotidien des commerçantes qui travaillent entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Kay Lawson, notre correspondante à Lomé, nous emmène dans leur univers.
Le commerce sur l'axe côtier entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire est d'autant plus difficile pour les femmes avec des pertes économiques assez consistantes. C'est ce que révèle une étude sur les problèmes auxquels les commerçants sont confrontés sur le corridor Abidjan-Lagos. Faridat Achambi Aboudou, chargée de recherche au laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale.
Il y a des femmes qui sont dans le commerce des marchés capillaires, ça veut dire on prend de la zone de production, on ramène vers la frontière, une autre prend de la frontière, traverse et l'amène de l'autre côté, une autre femme prend de ce marché, amène sur un marché un peu plus loin, ainsi de suite. Et voilà comment le relais se fait jusqu'à ce que ces produits arrivent sur les marchés terminaux. Les femmes ne sont pas souvent propriétaires de véhicules, donc elles sont souvent à la merci des transporteurs. Quand un transporteur le fait faux bond, il peut arriver que la femme pète énormément du fait que le produit soit endommagé, du fait des délais importants d'acheminement de produits, elle peut enregistrer de nombreuses pertes.
Parmi les difficultés recensées figurent le vol et le harcèlement sexuel dont 7,8% des enquêtés affirment avoir été victimes. Jeannette Adjassou, commerçante de fruits et légumes entre le Togo et le Bénin.
Nous, c'est dans la nuit qu'on vient prendre les bagages. Ce n'est pas en sécurité. Des fois, c'est des viols. Des fois, c'est des vols. Et c'est trop risqué. Nous sommes nombreuses. On quitte, par exemple, le Nigeria. On quitte au Bénin. Il y a des femmes qui viennent du Ghana. Et on passe la nuit ensemble et on est des victimes des fois.
L'ignorance expose ces commerçantes et constitue une des causes de la cherté des produits sur le marché final, nous dit Florent Patindé, spécialiste de l'information commerciale à l'Alliance Bordalais.
Les femmes sont ignorantes des tests qui régissent le commerce et le transport dans la sous-région. Lorsque, en face de cette méconnaissance des tests, elles se font réclamer des choses et la plupart du temps, les femmes payent des sommes colossales qu'ils ne doivent pas payer. Et lorsqu'elles payent ces sommes colossales pour pouvoir traverser une marchandise qui n'a pas grande valeur, le consommateur final de ce produit va l'acheter cher parce qu'à la frontière, peut-être, il y a eu des renseignements qui ont renchéri le coût de cession de ce produit sur le marché final.
Le constat ainsi fait, les commerçantes soumettent des doléances et recommandations.
Nous, les commerçants, nous voulons sincèrement qu'on fasse une carte ou bien un document qui va nous permettre de traverser librement.
Kaye Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Chavirement de pirogue, drame de la route, incendie, les accidents sont fréquents au Sénégal. Lundi dernier, 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation surchargée. Il y a 2 semaines, des dizaines de fidèles musulmans trouvaient la mort dans les flammes à Medina Gounas. Alors, les Sénégalais sont-ils imprudents? Les autorités font-elles respecter la loi? Mangane Guiriac a joint Bakary Domingo Mann, journaliste et analyste politique à Dakar.
Les Sénégalais commettent beaucoup d'imprudence. J'allais parler même de négligence. Parce que depuis le naufrage du bateau Le Djola en début 2000, il y avait un certain nombre de dispositions qui avaient été prises par les Sénégalais et les populations avaient commencé à les respecter. Par exemple, dans les transports publics, pas de surcharge. En mer, il faut porter les gilets de sauvetage. Mais c'est comme si les gens sont amnésiques. Quand il y a des drames comme cela, le lendemain, les gens sont regardants. 2-3 jours après, les gens oublient et on retombe dans les mêmes travers. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi, mais c'est qu'ici, les gens sont laxistes. Et malheureusement, les confréries n'aident pas trop, puisque quand des gens commettent des infractions, on va se réfugier derrière son marabout, et c'est le marabout de soi qui intervient, et finalement, il n'y a plus de sanctions.
Les lois existent, et les autorités ont-elles quand même une part de responsabilité? Est-ce qu'elles font respecter les lois?
Les autorités ont une part de responsabilité dans le fait que les Sénégalais ne respectent pas la loi, parce que d'abord, les autorités elles-mêmes qui doivent montrer l'exemple enfreignent la loi.
Et c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Par exemple, ne pas brûler en feu rouge, mais nous avons vu comme une autorité vraiment enfreindre cette loi-là dans ce pays et se laisser aller malheureusement à gagner vraiment tous les segments, n'est-ce pas, de la société. Nous, on pensait qu'avec le Djola, vraiment c'était fini, mais au lendemain, ce sont les surcharges aujourd'hui dans les transports publics, pas plus tard qu'une semaine, c'est l'incendie dans un lieu de prière.
Est-ce que ça pourrait aussi être une question de moyens, puisque finalement, bon, pour avoir un gilet, il faut se l'acheter et les autorités, pour pouvoir faire appliquer la loi, il faut avoir quand même suffisamment de moyens.
L'État du Sénégal a subventionné les gilets dans ce pays. C'est les Sénégalais même qui n'ont pas ces réflexes. Ils peuvent avoir le gilet ici, ils peuvent le poser, et puis sans le porter. Donc, lorsque des gens traversent d'une île à une autre, il faut que l'autorité là soit présente pour dire aux gens, portez les gilets de sauvetage. Si vous ne les portez pas, vous ne voyagez pas. Mais malheureusement, les gens, c'est au vu et au su de tout le monde, et on le sait. L'indiscipline des Sénégalais, c'est vrai, quand ils vont aux États-Unis, c'est la discipline. Quand ils vont en France, c'est la discipline. Mais dès qu'ils débarquent au Sénégal, c'est le laisser-aller total. Ça veut dire que c'est l'autorité, n'est-ce pas, qui ne joue pas son rôle.
Bakary Domingo Mann, journaliste et analyste politique, joint à Dakar par Morgan Guiriac.
Dans Washington Forum ce jeudi, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'heure d'un premier bilan avec des promesses de campagne ambitieuses, des dossiers syriens, coréens à l'immigration, en passant par la construction du mur avec le Mexique, ou encore le délicat démantèlement de l'Obamacare et une réduction sévère de l'aide internationale. Quelles sont les promesses déjà réalisées? Quelle place pour l'Afrique dans ces 100 premiers jours? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée, c'est le constat qu'établit Reporters sans frontières. La carte du monde dressée par RSF est envahie de rouge, du rouge pour marquer des situations difficiles et de noir pour des situations très graves. RSF s'inquiète d'un risque de grand basculement de la situation de la liberté de la presse, notamment dans les pays considérés comme démocratiques. Solange Niamoulissa a joint Cléa Kahn-Schreiber, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, pour faire un état des lieux.
Sur l'ensemble du monde, le constat est celui-ci. C'est une augmentation des attaques contre les journalistes, des attaques contre les médias, une espèce de banalisation, en fin de compte, des menaces et des attaques contre les journalistes, c'est-à-dire que c'est comme si ça n'était plus choquant de s'en prendre à la liberté de la presse. Et aussi un constat, encore là, au niveau mondial, effrayant, qui est celui du recul des démocraties dites traditionnelles, en fait, les démocraties occidentales notamment, qui ont fait passer un certain nombre de lois restreignant la liberté de la presse, notamment sur les questions d'enquête, sur les questions de sécurité ou de terrorisme, et aussi de la part de certains dirigeants de ces démocraties qu'on croyait établies, un retour en arrière extrêmement préoccupant de certains d'entre eux dans leurs déclarations où ils s'attaquent directement aux journalistes. Bon, et évidemment, on regarde de près ce qui se passe aux États-Unis, déjà au moment de la campagne, et puis maintenant aussi, évidemment, depuis l'élection du président, où les journalistes sont constamment sous attaque, ont de moins en moins accès aux sources et se retrouvent diabolisés par le pouvoir en place. C'est ce qui est extrêmement préoccupant.
Cléa Kahn-Schreiber, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Pour parler plus précisément de l'Afrique, jamais l'Afrique n'a eu un score aussi mauvais sur les questions de liberté de la presse. Et les manifestations de cela, c'est à la fois une utilisation beaucoup plus fréquente d'un recours à un discours sécuritaire et en fait une instrumentalisation d'un discours sur certaines valeurs démocratiques, de préservation de l'unité nationale, de préservation du bien commun, etc., pour justifier en fin de compte une répression accrue contre les journalistes, contre les libertés individuelles. Ça se traduit par des lois sur l'état d'urgence, par des lois antiterroristes extrêmement sévères qui en fait découragent tout journaliste d'enquêter sur les questions liées à la sécurité de leur pays, par des emprisonnements arbitraires, des fermetures de médias et une répression généralisée contre les journalistes qui osent parler des questions qui dérangent. Et notamment, on l'a vu cette année, c'était beaucoup des questions liées au report des élections ou alors à des passages en force de présidents qui sont déjà au pouvoir depuis un moment. Un autre constat qu'on fait, c'est celui du recours aussi de plus en plus fréquent aux coupures d'Internet et ou aux coupures des réseaux sociaux parce que maintenant, à travers la téléphonie mobile notamment, et ces réseaux sociaux et l'accès à Internet, c'est devenu non seulement un outil de travail pour les journalistes au quotidien, mais aussi évidemment une source de diffusion et de circulation des informations pour les populations. Et donc en réaction à ça, ce qu'on a vu, c'est que ce soit au Tchad, en Gambie, au Cameroun, en RD Congo, au Congo-Brazzaville et au Niger et ailleurs, des coupures, soit d'Internet, soit des réseaux sociaux, pour empêcher justement la circulation de l'information.
Voilà, c'était l'analyse de la responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, Cléa Kahn-Schreiber, qui cette fois revenait sur les spécificités africaines.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comedy, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle a été mise en onde par Georges Léonard Sagnot avec l'assistance technique de Wagner Roberts. Présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons connectés via Facebook et sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.